Good Morning Business, le grand débat.
Et notre grand débat aujourd'hui, en partie consacré bien sûr à la banque américaine en difficulté SVB, on est avec Eric Delannoy. Bonjour, président fondateur de Tenzing Conseil. Jean-Philippe Cartier, président d'Ashuit. Bonjour. Wilfried Galland, directeur stratégiste Montpensier Finance. Et Benaouda Abdedaïm est avec nous également. On va faire un point sur ce qui s'est passé ce week-end, sur le film de ces événements bancaires. Haute-Kerslake, refaites-nous. Ça a commencé en milieu de semaine dernière en fait.
Oui, d'abord avec Silvergate, l'une des rares banques traditionnelles à gérer des sociétés issues du monde des cryptos, qui s'est placée mercredi en liquidation. Une banque mise à mal par l'affaire FTX et par la chute du cours des cryptos. Jeudi, c'est Silicon Valley Bank qui se déclarait en difficulté, une banque qui finance énormément de start-up de la tech avant d'être fermée vendredi par les autorités américaines. Et puis en fin de week-end, dans la crainte d'un risque systémique, les autorités américaines ont fermé une deuxième banque, Signature Bank, qui s'était aussi fait une spécialité dans les cryptos. Donc deux faillites, une fermeture. Alors en fait, la crainte, c'était que les banques n'arrivent pas à faire face aux demandes de retrait de leurs clients. Dans le cas de Silicon Valley Bank, c'est ce qui s'est passé. La banque a échoué à faire une augmentation de capital. Elle a vendu un de ses portefeuilles d'obligations souveraines à perte à cause de la remontée des taux. Et donc, elle a dû être fermée par le régulateur américain. Alors, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que, en termes de risque de hausse de taux d'intérêt, elle n'était pas suffisamment protégée. Elle était imprudente. C'était la 16e banque américaine en termes de volume d'actifs.
Alors, Aude, restez avec nous. Avant de nous dire quelles ont été les mesures prises ce week-end par les autorités de régulation, on va vous demander, autour de la table, si c'est des grosses banques ou pas. Parce que je sais que vous n'avez pas le même avis. Alors, Eric Delannoy, est-ce que c'est grave que ces banques-là fassent faillite ?
Alors, c'est toujours grave qu'une banque fasse faillite. Maintenant, à titre personnel, je pense que la 16e banque américaine, enfin, c'est quatre fois moins gros que Lehman Brothers. C'est très spécifiquement lié, alors même s'ils se sont diversifiés dans les dernières années, c'est très spécifiquement lié à ce qu'on appelle du B2B, donc sur l'activité de private equity, donc avec une faible diversification de clientèle. Et donc, c'est clairement identifié. Leur problème est clairement identifié, sans compter que le problème de SVB,
Silicon Valley Bank,
est totalement différent de celle de la cryptobanque. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, la cryptobanque est victime d'un client qui représente 10% de ses actifs. Bon, le client fait faillite, la banque a beaucoup de mal.
Je suis d'accord.
Wilfried.
Non, je suis d'accord que le vrai sujet, c'est Silicon Valley Bank, éventuellement d'autres banques qui ont un profil similaire. Moi, je pense à First Republic, dont personne ne parle, mais qui en tout cas attire beaucoup l'attention aux États-Unis. Et effectivement, le sujet, c'est une banque qui est quand même, pour moi, importante. Lorsque Silicon Valley Bank tombe, elle a la même taille que la Société Générale. Elle a la même taille qu'avait Bear Stearns lorsque Bear Stearns est tombé, avec quand même 200 milliards. Alors c'est vrai qu'à l'échelle, à l'échelle du système américain, c'est gérable. Mais justement,
Eric
c'est gérable.
Il sourit.
Mais c'est gérable. mais c'est un acteur que je trouve très significatif. Et il faut pas considérer que c'est un petit acteur, une microbanque. C'est important.
Là où on ne peut pas la comparer à la Générale, c'est que c'est une banque qui a une activité beaucoup plus concentrée que celle de la Générale. La Générale, c'est de la banque de détail, de la banque d'investissement, de la banque de marché. La Silicon Valley Bank, c'est essentiellement de la banque de marché, de la banque de dépôt sur des activités de private equity, donc essentiellement risquées. Et donc, c'est vraiment un spectre extrêmement étroit. Donc, dont les caractéristiques aujourd'hui, il est vrai, il y a un vrai problème de financement de la tech aujourd'hui qui pèse sur ces banques-là. Mais on identifie bien le problème et c'est vraiment pas, enfin, quand on parle de risque systémique, on ne peut pas imaginer qu'une banque comme ça, qui a un spectre très étroit d'activité, puisse avoir des répercussions, notamment au niveau européen, on en reparlera peut-être, sur d'autres activités beaucoup plus larges.
Mais Benaouda Abdedaïm, vous le disiez tout à l'heure qu'il y a des succursales, il y a des JV, la
Europe,
banque, elle n'est pas juste aux États-Unis.
Ah non, elle a même une dimension mondiale. Alors on se concentre sur le Royaume-Uni où c'est le ministre, le chancelier d'Échiquier, le ministre des Finances lui-même qui dit que c'est un risque sérieux pour les entreprises de la technologie et des sciences du Royaume-Uni dont beaucoup font affaire avec cette banque. Il y a un problème pour l'innovation au Royaume-Uni. Mais lorsqu'on voit aussi l'impact que ça a en Chine et en Inde. En Chine, hier après-midi, ça faisait des centaines et des centaines de millions de pages vues sur le risque SVB pour l'entrepreneuriat technologique chinois. En Inde, le ministre des technologies convoque l'ensemble du secteur. Ce n'est pas une affaire bancaire, c'est une affaire de financement de l'innovation. Ouais. Le ministre de la Technologie en Inde convoque l'ensemble du secteur pour voir quelles vont être les conséquences. Et ce ministre de la Technologie estime que c'est maintenant la signature américaine bancaire qui est en cause. C'est ce qui se dit aussi en Chine. Donc de ce point de vue-là, ça a un effet dévastateur auprès de la confiance qu'ont les entrepreneurs de la tech chinois et indiens.
Et à Londres, à la City, on apprend il y a quelques minutes que les autorités britanniques essayent, avant l'ouverture des marchés, de faire racheter la filiale de la Silicon Valley Bank par HSBC. Donc c'est jugé comme étant sérieux. Jean-Philippe Cartier.
Non, mais je pense que ça ne peut pas être anodin le fait qu'une banque qui finance près de. Dont ses clients sont 50% des entreprises de la tech financées par les investisseurs US, ça ne peut pas être anodin. Point 1. Point 2, vous avez tout à fait raison, c'est une crise de la tech. Nous, on le voit en tant qu'investisseur, ça fait 6 mois, 10 mois, 12 mois, 18 mois qu'il y a un problème de liquidité et de financement massif. On ne va pas faire les intelligents qui, aujourd'hui, ça devait potentiellement arriver parce que cette crise liée au besoin de liquidité hyper rapide, elle est arrivée en 3 jours. Pour autant, la tech se finançant de plus en plus mal, je pense que ça pose une vraie question sur le financement de la tech des mois, des semaines, des semestres à venir. On le sentait pointer du bout de son nez et c'est un problème majeur. Et je pense, et je termine juste là-dessus, j'en parle avec des gens de la BPI, on est à fond sur le financement de l'innovation. C'est dès que tu n'as pas le mot tech, deep tech, fintech, ce que tu veux tech, tu n'arrives plus à te financer. Il y a un vrai sujet que j'apporte parfois avec certains qui fait qu'on devrait se reposer des questions sur les modèles économiques autres également qui cherchent du financement de partout. Là, on a donné des centaines de milliards à des entreprises qui parfois l'ont cramé quand même extrêmement rapidement. Il y a certaines entreprises, on se le racontait avant, moi, dans lesquelles j'ai quelques billes, qui tout le week-end se sont posées des questions en disant comment on fait lundi matin, c'est
fini,
on a tout notre argent. Évidemment, la moitié, c'est là où tu te rends compte que même en France, en Europe, les grosses entreprises étaient très SVB parce que c'était cool. Nous, bons entrepreneurs français, on est quand même à la BNP, on est quand même à la SG, on a quand même d'autres banques avec lesquelles on travaille. On ne met pas tout à la SVB. Je savais qu'elle existait, mais pourtant, dans toutes mes participations, je n'avais pas un euro là-bas. Mais il y a un vrai sujet de financement de la tech et de réflexion plus globale et je pense que ça va être comme souvent un mal pour un bien.
Bon, il y en a un qui essaie de nous rassurer, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Pas de risque de
toujours compter sur Bruno.
De contagion, on l'écoute. On l'écoutera plus tard, Bruno Le Maire. Mais je vous rejure qu'il a été.
Nous avons toujours aidé toutes les entreprises en difficulté, mais je le redis, nous n'en sommes absolument pas là. Il n'y a pas d'alerte spécifique. Les banques françaises sont solides. Le système bancaire français est solide. Et il fait l'objet d'une supervision qui est extraordinairement rigoureuse.
Voilà, Bruno Le Maire sur France Info. On sent bien que tout le monde a quand même besoin de se rassurer. D'ailleurs, aux États-Unis, tout le week-end, c'était le cordon sanitaire, le cordon monétaire et réglementaire. Aude Kersulé, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end?
Alors, le Trésor, pour assurer, a annoncé à garantir tous les dépôts de Silicon Valley Bank et de Signature Bank pour que les clients récupèrent leurs dépôts, 100% des clients, ce qui va plus loin que la loi fédérale qui garantit uniquement 250 000 dollars par client et par banque. Et pour limiter la contagion à d'autres établissements, la réserve fédérale a mis en place une ligne de crédit pouvant aller jusqu'à 25 milliards de dollars pour les banques qui en auraient besoin pour honorer les retraits de leurs clients.
Éric Delannoy, moi j'entends tout à fait, c'est une crise de la tech, mais c'est pas aussi une crise de la gestion de la hausse des taux quand même qu'il y a derrière?
Oui, mais évidemment. Alors d'abord, je voudrais dire que actuellement, on l'a vu 10 fois depuis 2008, on est dans la spirale de la peur. Dès qu'il y a un problème au niveau financier, que ce soit local ou européen ou mondial, tout le monde se met à se dire qu'il faut réagir très vite, etc. Bien sûr qu'il faut réagir, mais entre réagir et être dans la spirale de la peur, c'est-à-dire le spectre de la contagion systémique, enfin, je veux dire, on en est quand même très très loin. Alors effectivement, ça pose d'autres sujets, ça se pose le sujet de financement de la tech. Il est vrai que le bon côté des Américains, c'est que c'est des gens qui sont capables de prendre des risques sur la tech, que la France n'est pas capable de prendre. Alors il est vrai que quand on voit des succès importants, ne serait-ce que ChatGPT qui a levé $1 milliard comme ça, en France, ça n'aurait jamais été possible. Le revers de la médaille, c'est que quand il y a un problème, notamment au niveau financier, c'est vrai que la hausse des taux, sa caractéristique, elle est. Non, mais la hausse des taux, c'est la matière première, c'est la mine d'or des banques, la hausse des taux. Il faut savoir que demain, les banques vont s'en mettre plein les poches parce que la hausse des taux, c'est ce qui est leur matière première. Le problème, c'est que cette hausse des taux, elle a été effectivement extrêmement rapide. Et en étant très rapide, elle crée des effets de ciseaux qui, à court terme, posent des problèmes. Ouais. Bon, c'est pas ça qui a empêché de faire des résultats records quand même, hein. Donc, je veux dire, que ce soit les bénéfices des banques qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliards au niveau mondial.
Pas chez SVB qui n'avait pas fait des résultats.
Mais vous voyez que, au regard des résultats bancaires mondiaux, quand on parle de risque systémique, il faut se calmer, quoi. Enfin, quand on parle du fonds de résolution européen, qui est ce fonds qui a été mis en place par le système de régulation européen des crises systémiques, qui est doté de 55 milliards. Je ne vois pas comment on peut se faire peur à ce point. Et le problème, c'est que dans ces sujets-là, il y a des problématiques de prophéties autoréalisatrices. Plus on a peur, plus on se fait peur, plus on risque d'avoir peur.
Jean-Philippe.
Non, mais je disais juste que vous avez quand même parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il y a eu, sur cette banque, il y a eu quand même un vrai problème de gestion de la trésorerie du placement, puisque il y a 120 milliards qui étaient placés long terme. Dès lors que tu as besoin qu'ils ne pouvaient pas revendre, à part avec une décote hyper massive
la dernière semaine,
il y a eu du 8 ou 10 milliards d'euros retirés en 5 minutes. À partir de ce moment-là, il y a quand même un problème clair de gestion qui est revendiqué par toutes les plus grandes banques européennes de manière off, mais qui est une évidence.
Moi, il y a une question que je me pose, Wilfried, c'est qui va payer à la fin ? Parce que Éric Delavoye nous rassure ce matin, on est content. Effectivement, on a l'impression qu'il ne peut plus y avoir de crise financière. Maintenant, derrière, il y a la réserve fédérale américaine qui refinance, il y a le trésor américain qui refinance la réserve fédérale. C'est merveilleux, ce monde de la finance où l'argent est finalement toujours gratuit. Mais à la fin, il y a bien quelqu'un qui paye quand même. S'il y a des risques et qu'on rembourse les épargnants, les dépôts de manière illimitée, qui paye à la fin ?
C'est le trésor américain. C'est le trésor américain. Et effectivement, la justification...
Pourquoi on n'y a pas pensé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, dans les années 30 ? Pourquoi ce n'est pas toujours le trésor américain qui finance toutes les crises ?
En fait, la justification numéro 1, parce qu'effectivement, ce week-end, on a tordu la réglementation.
Bah oui.
La réglementation était claire, c'était
250 000
et c'est tout. Parce que là, on allait voir ce qu'on allait voir. Là, c'était fini. Justement, on allait arrêter de payer pour les banques.
Bah oui.
On
se rend compte
que et on se rend compte que les effets effectivement de peur dans le système bancaire arrive à générer la nécessité de se dire oui, effectivement, on peut avoir une crise systémique parce que justement il y a des comportements qui vont générer ça, et donc à un moment donné il faut faire des backstop, hein. C'est le vieux proverbe, anglo-saxon, don't panic, petit few panic, panic first, hein. Ne paniquez pas, mais si vous paniquez, paniquez en premier. C'est exactement ce qui s'est passé.
Le premier à tirer ses dépôts, notamment.
Et en fait ce qu'on voyait effectivement sur les réseaux sociaux à partir de vendredi soir, c'est effectivement des files d'attente, et on l'a vu encore ce week-end sur First Republic par exemple, des files d'attente à l'extérieur des banques qui disent je veux absolument retirer mon argent. Et là, on a, dans ce cas-là, une crise. On a une crise de liquidité qui se met en place immédiatement.
Crise de liquidité, enfin, il y a des liquidités encore partout, même si effectivement la hausse des taux est en train de faire un resserrement monétaire comme il y avait longtemps que ça ne s'est pas passé. Mais cet effet des files d'attente. Mais ces files d'attente-là, on en parle depuis toujours. Des files d'attente, c'est quoi ? C'est 50, 100 personnes. Regardez les files d'attente qu'il y a eu pendant la crise grecque, qui étaient bien plus importantes que celles dans le système financier grec, qui était au bord de la faillite il y a quelques années. Il y a eu des files d'attente. Le bank run, il n'a jamais arrivé. Parce que finalement, il n'y a pas d'alternative à la banque. Donc, il y a des phénomènes marginaux qu'on...
Là, si toutes les PME ce matin se mettent à retirer leur argent chez SVB, on va rouvrir le guichet...
N'oubliez pas l'aspect marketing. SVB, c'est quand même la moitié des boîtes qui ont un compte là-bas. Vous les connaissez. C'est les boîtes tech américaines les plus importantes, plus connues. Donc, en termes d'image, je pense que la volonté peut-être de dire on s'en fout il y a deux jours était peut-être réelle pendant deux heures. Et tu réfléchis. C'est strictement impossible. C'est certain qu'il y aurait une solution si ce n'est pas aujourd'hui dans la semaine, mais c'était obligatoire.
Benahouda.
Il va falloir aussi tenir compte de l'effet politique qui va induire. Parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de bruit, notamment sur le fait que les dirigeants de SVB se distribuent des bonus encore quelques jours avant l'affaire. Que l'on voit
vendre des titres.
Mais c'est encore plus grave dans l'esprit commun de se distribuer des bonus. Mais je pense, et puis d'autre part, lorsqu'on voit que même dans la presse conservatrice à Londres, on commence à... Enfin, vous me direz, ce ne sera que la 150e fois. C'est-à-dire qu'il faut que cette fois-ci, les détenteurs d'obligations et d'actions, ils laissent leur chemise et qu'on ne peut pas renflouer indéfiniment chacun, chaque fois qu'ils le demandent. Et qu'au final, encore une fois, on va revenir au point de départ. Mais politiquement, encore une fois, ça va être un thème majeur entre républicains et démocrates pour déterminer quelle est la responsabilité. Donc, il va y avoir des effets de bord politique qui vont être très importants.
Ça n'arrivera pas, Eric.
Non, mais enfin, ça n'arrivera pas parce qu'effectivement, à un moment, on est devant le fait accompli. Il faut faire en sorte de sauver l'économie. Maintenant, il y a quand même, on en discutait avec Wilfried tout à l'heure. Il y a un sujet qui est une bonne leçon pour les Américains, c'est que Donald Trump a dérégulé. À recommencer à déréguler les banques aux États-Unis. Ce qu'on n'a pas fait la France, ce qu'on n'a pas fait l'Europe. Au contraire, on a durci considérablement avec des effets de distorsion de concurrence d'ailleurs très importants. Et on voit là que quand on dérégule, finalement, ça finit toujours mal, parce qu'il y en a déjà, il y en a qui ne gèrent pas bien. Ouais. Et quand vous disiez tout à l'heure, pourquoi on faisait pas ça avant il y a 20 ans?
Ah oui.
Mais parce qu'en fait, chaque crise amène ses leçons. La régulation européenne n'a jamais autant progressé en matière financière que depuis la crise de 2008. Mmh. Jamais. Et aujourd'hui, on est effectivement dans des systèmes solides.
Ouais. En tout cas, le président Joe Biden a tweeté cette nuit pour dire qu'il était fermement engagé pour que les responsables, for this mess, hein, je cite, soient responsables et redevables des solutions apportées et qu'ils y soient pour leur frère.
Regardez ce que sont devenus les patrons de Lehman Brothers. Hein.
Et alors
bon, y a pas de problème.
Tout va
bien pour eux. Il n'y a aucun problème pour eux.
Ils sont chez SVB, justement, non?
Je veux juste conclure, je rebondis, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vous écoutent. Et encore une fois, je pense que si ça doit donner une leçon, je vois dans des tas d'autres secteurs la complexité de continuer de se financer sur des secteurs qui consomment beaucoup moins, mais beaucoup, beaucoup moins de cash dans la tech. Et je pense qu'autant la BPI que d'autres, et Dieu sait que je les apprécie beaucoup, mais ils doivent tous faire un énorme effort pour qu'on redéfinisse un petit peu les modalités de financement de d'autres secteurs. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, de financer... Je reprends, sur la BPI, par exemple, sur des tas d'aides qui existent aujourd'hui, ils financent beaucoup de monde, la BPI. Mais sur les parties aides, je peux en parler parce que c'est un sujet précis actuel, 99%, si vous ne faites pas de la tech, de la fintech, de la deep tech, vous n'êtes pas éligible à toutes ces aides. Ouais. Je pense qu'il y a des tas de gens, je dis n'importe quoi, il n'a pas besoin de ça, mais je lisais un article sur le groupe Bertrand, il y a des milliards d'euros de chiffre d'affaires, des milliers d'employés, c'est des gens qui aujourd'hui, comme tout le monde, se financent peut-être plus difficilement que de boîtes complètement. Donc je pense qu'il doit y avoir un travail pour accélérer et financer mieux d'autres secteurs d'activité, tout en continuant de financer la tech et l'innovation, bien sûr.
Wilfried.
Moi, je pense que le deuxième sujet qu'il va falloir aborder très vite, c'est justement l'articulation de tout ça avec les plans des banques centrales. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui dans Silicon Valley Bank, c'est la conjonction, effectivement, d'un business très particulier, d'une hausse de taux très forte et de ce qu'on appelle le quantitative tightening. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a réduit les liquidités dans le bilan des banques pour les remplacer par des obligations. C'est ça que ça veut dire en termes techniques. Et donc, ça veut dire que si vous ne pilotez pas d'une façon très claire, soit par la réglementation, soit par la macro-prudentielle des banques centrales, justement ce qui se passe dans le bilan des banques, vous augmentez le risque d'accident financier. C'est exactement ce qu'on a aujourd'hui.
Et donc, c'est plus contrôlé au niveau européen, mais au niveau européen, avec la
baisse des financements TLTRO, il va falloir quand même faire très attention, parce que les bilans des banques ont également beaucoup changé en quelques mois. Donc, j'attends de la part de chaque banque centrale qui se positionne sur ce qui se positionnait avant, c'est-à-dire les équilibres financiers. Pas uniquement l'inflation, mais comment est-ce que le système financier est équilibré, c'est leur métier.
Allez, on finit avec une petite hausse de salaire pour tout le monde.
Oui, on était avec Audrey Richard matin, la présidente de la NDRH, ils ont fait le bilan des NAO, on l'écoute.
Des bonus.
On voit qu'il y a quand même des entreprises qui n'ont pas pu donner d'augmentation. On voit on est autour de 15% d'entreprises qui sont inférieures à 1%.
Ah oui.
Oui, parce que on le sait bien, on en a parlé ensemble déjà. Il y a des entreprises qui sont encore en difficulté ou qui sont en difficulté.
Voilà, les NAO, c'était 4,5% en moyenne pour les entreprises en France. C'est sans les primes, hein, et c'est sans les bonus, avec des grosses disparités entre les entreprises.
Est-ce que c'est assez par rapport à l'inflation? Enfin, moi, je fais partie de ceux qui croient en la boucle prix-salaire. Donc, je considère qu'aujourd'hui, on a une gestion de l'inflation terrible qui va faire qu'on a une inflation qui va durer, puisque à faire en sorte d'avoir des NAO aussi importantes que ça pour tout le monde, enfin, on fait en sorte de nourrir l'inflation.
Donc,
à un moment, il faudra que ça se reporte. Mais bien sûr que c'est trop. En fait, c'est pas assez, on va dire, clivé. C'est-à-dire qu'en gros, il faut aider ceux qui ont des sujets. Et il y en a, c'est 20% des ménages en France. Et les autres, je vous rappelle que le taux d'épargne n'a jamais été aussi important en France quand même. Hein.
Jean-Philippe qui a distribué plus que 4,5%.
Non, moi je pense que...
Dans les restaurants, vous avez distribué plus, Jean-Philippe.
Une minute 10 pour parler de l'inflation et des augmentations de salaire, c'est court. Mais je considère que oui, il faut continuer. Moi, je suis un peu en désaccord. Je pense qu'il faut continuer d'augmenter les salaires. Oui, je pense que quand on voit les résultats des entreprises et même les nôtres, encore une fois, j'ai un avis assez tranché. Je lisais Marc Fiorentino avec beaucoup d'intérêt sur la logique même d'inflation. Quand on fait plus 40% d'EBITDA, le sujet, c'est que tout le monde a profité quand même violemment pour remonter les prix. Et peu importe les 20% qui souffrent, je pense que même la moitié au milieu, elle commence à avoir des vraies complexités à vivre correctement. Donc je pense que oui, on ne peut pas gagner, nous, plus PME, entreprises qui fonctionnent bien, dans les secteurs qui fonctionnent, sans augmenter nos salaires de manière un peu plus subjective.
Et bien, ça sera le mot de la fin. Ouais. Merci à tous les quatre d'être venus débattre avec nous.